écoutez Radio Campus Tours, il est 18h, passé de 12 minutes, vous écoutez Sortez. Et ce soir, nous allons parler poésie sonore avec notre invité, Axel Glélène. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment doit-on t'appeler ?
Axel, c'est bien.
Axel, c'est bien. Alors, parce que tu as plusieurs noms, est-ce que tu peux déjà nous dire ce nom, Laine, c'est ton nom d'auteur, c'est ton nom de scène ?
Oui, c'est tout simplement le nom que j'utilise pour dire qui je suis quand j'écris.
Et est-ce que cette Laine, c'est une personne qui est différente ? Comment tu la définis ?
Ça, c'est une bonne question. C'est d'abord la personne qui signe les poèmes. Après, si c'est moi qui les lis, j'utilise plutôt mon nom réel. Voilà. C'est plutôt une petite extension, on pourrait dire peut-être.
Laine, parce que Pessoa, alors ?
Et non, pas du tout. Parce que référence à l'enfance, pour une référence de littérature jeunesse que certains reconnaîtront peut-être, que je peux ne pas dire pour voir ceux qui reconnaîtront ou pas.
Donc si on cherche Laine littérature jeunesse, peut-être qu'on aura des indices.
Et voilà, exactement.
Bon, alors avis aux curieux. Donc pour en revenir, cher Axel, à cette poésie sonore, tu as constitué une association POSO. Poésie sonore, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Qui se donne pour vocation d'aider, promouvoir et diffuser les actions de poésie sonore et de littérature vivante. Ah ah ! Alors, elle existe depuis quand déjà cette asso ?
Alors, elle existe depuis un an et demi, presque tout pile. Donc, c'est encore une jeune association. Voilà, avec l'idée que c'était intéressant d'avoir une structure qui soit d'abord assez petite, donc à échelle humaine, pour venir dire de manière accessible et assez diverse que la littérature et la poésie, c'était des choses qui pouvaient vivre et qui pouvaient vivre de manière différente, qui pouvaient vivre en dehors du livre, qui pouvaient vivre en dehors des lieux habituels de diffusion de la littérature et qui pouvaient s'adresser donc à une majorité de personnes.
Poésie sonore ? Pour toi, c'est quoi la poésie sonore ? Comment tu es venue à t'intéresser et à fabriquer de la poésie sonore ?
Alors, l'entrée dans la poésie sonore, pour moi, c'était l'entrée musicale, puisque dans mon parcours, il y a toujours eu beaucoup de musique, il y a toujours eu beaucoup de mots aussi. Et donc, l'idée, c'était à un moment de prendre conscience en fait, de cette part énorme des aspects musicaux de la langue, et des mots et des phrases, etc. Et puis ensuite, en faisant ce constat dans mon expérience à moi, je suis pu aller ouvrir le champ et me rendre compte, en fait, et découvrir qu'au niveau historique, la poésie sonore, c'était quelque chose qui était existant, encore assez vivant, en fait, puisqu'il y a tout un pan de la poésie contemporaine qui se revendique de la poésie sonore. La sonorité, l'importance de la sonorité dans la poésie, elle a toujours existé. Elle a été parfois mise de côté pour des raisons académiques, historiques, de prédominance des normes de l'écrit. Mais ça a toujours été là quelque part, plus ou moins en dormance. Et puis, au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'avant-gardes qui se sont repenchés sur cette question, en mettant un petit peu de côté les aspects sémantiques, donc qu'est-ce que veut dire la langue, pour s'intéresser aux aspects, on va dire, plus formels ou sensoriels ou perceptifs de la langue. Et puis en parallèle avec toute l'histoire aussi des technologies autour du sonore et de l'audio, plus tard dans le XXe siècle, il y a eu de plus grandes possibilités de traitement sonore de la langue. Donc voilà, en fait, c'est vraiment plein de pistes possibles pour expérimenter tous les aspects sonores et musicaux de la langue, et puis la poésie sonore, c'est cette branche-là caractérisée dans ses aspects artistiques, en fait. Voilà. Et ça, c'est l'aspect plutôt poésie. On essaye de faire du beau, ou en tout cas de venir générer une émotion artistique quelque part chez les gens.
Finalement, c'est la poésie sonore. Est-ce que c'est une réalité augmentée, une poésie augmentée ? C'est-à-dire qu'on a un texte et on a par-dessus en surimpression ou autour et de la musique et peut-être des bruits et peut-être des voix, des vocalisations.
Alors ça peut être tout ça, c'est rarement tout ça à la fois parce que c'est clairement inaudible. ça peut être tout ça, c'est vraiment, il y a énormément de ramifications en fait, donc c'est en ça que ça reste très expérimental, même si beaucoup de choses ont déjà été faites. En fait, nous, dans l'association, on essaye d'expérimenter à notre petite échelle différents aspects Donc l'aspect poétique de la parole dite, donc en s'éloignant des textes écrits, les aspects musicaux ou la recherche sonore plutôt musicale et bruitiste vient se tisser avec la matière poétique et textuelle, ou bien alors la musicalité intrinsèque au texte, c'est-à-dire un texte qui est écrit et pensé et traité en amont comme une musique, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas complètement le sens. En tout cas, le sens est l'un des paramètres du texte poétique et il y a plein d'autres choses à écouter, il y a du rythme, il y a de la mélodie, il y a des répétitions, voilà, des paramètres plutôt d'ordre musical, on va dire.
Donc ça marche aussi avec des voix ou des contenus non-verbaux.
Oui, complètement. C'est vrai que quand on commence, on débute, on s'intéresse au départ à la poésie sonore, c'est pas forcément ce qu'on va attaquer en premier lieu, parce que c'est ce qui est le plus difficilement compréhensible, et c'est ce qui peut être aussi des fois un peu inquiétant, de se dire qu'on parle sans s'intéresser au sens. Ça peut vraiment être déstabilisant. Mais en tout cas, entendre à la fois ce que ça peut dire et à la fois ce que ça peut faire comme son, pour nous, c'est une forme d'augmentation, bien sûr, mais c'est aussi une forme de révélation, c'est-à-dire rendre tout à coup audible quelque chose qui est toujours là, que par aspect pratique ou par facilité, on met de côté, parce que dans une langue usuelle, on va plutôt chercher à savoir ce que ça veut dire plutôt que ce que ça nous fait dans la sensation auditive, en fait.
Donc la poésie sonore est, par définition, inefficace d'un point de vue de communication ?
Alors c'est là que ça devient intéressant, je dirais non, c'est-à-dire que l'étape d'après, c'est de se rendre compte que ce qui s'est constitué, c'est un autre rapport au sens. On est passé par un autre chemin, pas le chemin le plus habituel, pas le chemin le plus facile, pas le chemin le plus évident, n'empêche qu'il s'est quand même passé quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension, et qui vient quand même convoquer un certain nombre d'analogies, d'images, d'enchaînements d'idées, qui ne sont pas forcément ce qu'on voulait dire au départ, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas schématiquement avec quelque chose qu'on veut dire, en sachant quel mot on va utiliser pour le dire. Mais en passant par un traitement, on va dire, technique, avec des trucs sonores sur la langue, on arrive quand même à un résultat qui signifie quelque chose. Voilà. Mais on joue sur l'inattendu, on joue sur la surprise aussi, c'est-à-dire que parfois en écrivant, on va avoir en face de soi plusieurs personnes, je pense à des situations en atelier d'écriture par exemple, les gens qui sont en face et qui ont entendu le texte sont unanimes sur ce que ça signifie pour eux. Alors que cette intention-là n'était pas prévue au départ par la personne qui l'a écrite, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un sens qui s'est construit, mais il ne s'est pas construit dans les lieux habituels. Et la compréhension, en ça, elle est un peu décalée.
Est-ce que l'interprète, finalement, n'a pas dit involontairement quelque chose qui l'habitait ? Et finalement, le public l'a très bien reçu, même si lui s'en est pas perçu.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, on essaye de faire le deuil de pouvoir dire exactement ce qu'on veut. Le principe de départ, c'est de savoir qu'on va dire quelque chose, mais on n'a pas un total contrôle dessus. C'est en ça que ça peut être déstabilisant aussi comme démarche d'écriture, mais c'est en ça que c'est très très riche. Puisqu'avec un petit peu d'entraînement et un petit peu de repères, on arrive à voir dans quelle direction on va, et on arrive en fait à mieux connaître nos propres chemins, les chemins de notre langue, sur laquelle on a peut-être un peu moins de contrôle, mais qui sont là de toute façon.
Mais c'est une prise de risque aussi, alors, à partir du moment où on le partage avec un public, parce que s'il y a cette idée surtout en performance, parce qu'on ne peut pas arrêter, en fait, l'enregistrement, on ne peut pas arrêter quelque chose, ou si on se lance dans une poésie sonore en public, on prend un risque.
Complètement. C'est aussi révéler un risque qui, à mon sens, toujours là dans une lecture ou une présentation d'ordre poétique, en fait. Voilà. Sauf que là, peut-être qu'elle est plus visible, ou plus mise en avant, parce qu'on a moins de contrôle sur la manière dont ce sera reçu. Mais effectivement, c'est accepter, c'est pour ça que je disais faire le deuil tout à l'heure, c'est accepter cette part de non-maîtrise, en fait.
As-tu des auteurs en fait, de poésie sonore que tu aimes, qui t'inspirent?
Oui, il y en a plusieurs. J'en découvre un petit peu tous les jours aussi, parce que c'est vrai que la poésie contemporaine est très foisonnante, donc on peut en découvrir beaucoup. Le maître, on va dire, de la poésie sonore en France, c'est Bernard Haitink, qui est mort il y a quelques années, qui a fait par exemple des poèmes très intéressants qui sont disponibles à l'écoute, qui s'appellent les poèmes partitions. Voilà, on a Gerasim Luka aussi, qui lui était déjà présent dans les années 40-50, qui a vraiment lancé ce mouvement-là. Dans les plus récents, il y a Patrice Cazel, qui est plutôt en région parisienne, qui travaille beaucoup avec des musiciens. Et puis aussi Mathias Richard. Voilà, et puis j'en oublie bien sûr beaucoup.
Mais c'est déjà bien. Je pense que si on va voir tout ça, on aura déjà une idée, en fait, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'est la poésie sonore, ça leur donne déjà toute une idée. Alors, avant de parler de vos spectacles, je te propose de faire une pause musicale et on va écouter l'Ojo, quelqu'un d'elle. Lodjo sur Radio Campus Tours. Quelqu'un d'elle, vous écoutez Sortez, et notre invité Axel Glay nous parle de poésie sonore. Alors, justement, hors antenne, on parlait de toutes ces phrases, cette fonction fatigue du langage, en fait, tous ces mots un peu creux qu'on dit sans écouter la réponse, en fait, qui n'ont pas de sens en soi. Par exemple, quand on dit « ça va » et qu'on n'écoute pas la réponse, ou quand on se sent mal quand quelqu'un nous répond « non », parce qu'en fait, c'est pas ce qui était attendu. Il me semble que tu disais que c'était un peu ça, le point de départ de votre spectacle, Idiome.
Oui, voilà. Donc, on a un spectacle en cours de création avec une comédienne qui s'appelle Émilie Coustet. Ce spectacle s'appelle Idiome, et on est parti du constat que ces phrases-là, à nous toutes les deux, elles nous faisaient réagir d'une manière qui était donc en dehors de l'information, et qu'on avait envie de creuser cet aspect-là d'une manière ludique et puis artistique. Et c'est vrai que la poésie sonore, avec cet aspect expérimental et cet aspect de jeu de mots, semblait s'y prêter vraiment beaucoup. Donc on a commencé à réfléchir, à écrire un peu, et puis on a eu plusieurs phases de travail, et le spectacle est quasiment fini de créer. Voilà. On était en résidence ce week-end, et puis on est de nouveau en résidence à la fin du mois, avec un spectacle qui va commencer à tourner dans les mois à venir. Voilà. Donc c'est un spectacle dans lequel on a des poèmes qui sont écrits à partir donc d'expressions idiomatiques, des proverbes, des expressions toutes faites, des tics de langage. Et puis, on les malmène, on les bidouille, on leur donne des contraintes de jeu, on en crée en direct, et tout ça avec le public qui n'est pas du tout laissé de côté dans cette histoire, puisque c'est le public qui soit influe sur la façon dont nous, on va traiter nos textes, soit nous aide à créer des idiomes et nous aide à créer des poèmes en direct, pendant le spectacle, en fait. Voilà.
Donc c'est une image qu'on peut voir sur votre page, sur un certain réseau social. On voit une photo avec des cubes en fait, qui s'empilent avec des mots écrits dessus. Et ça, ça fait partie du spectacle ?
Oui, complètement. C'est un des jeux qu'on a et qui peut être une de techniques de jeu de mots. Donc on a des briques de construction qui s'empilent. C'est très joli et ludique, ça rappellera certainement leur enfance à beaucoup de personnes. Et puis, on a des mots écrits qui viennent quasiment tous de proverbes, parce que c'est plus évocateur, c'est souvent très imagé, etc. Et puis, on peut bidouiller, composer des proverbes qui ne veulent rien dire, être sur le rigolo, pourquoi pas sur le sale. Enfin bon, voilà, on peut faire plein d'étages ou plein de lignes, et voilà.
Ça ressemble aussi à 1000 milliards de poèmes.
Oui, alors il y a cet aspect de jeu de mots que les gens qui connaissent l'Oulipo peuvent retrouver, parce que l'idée c'est la manipulation, donc traiter la langue comme de la matière, c'est ce qu'on peut faire nous, c'est ce qu'on peut faire de manière ludique et accessible. Quand on le rend très concret et matériel avec un jeu de construction, on voit bien qu'on peut s'amuser très vite, en fait. Et le principe de la poésie sonore, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit que c'est possible de le faire avec notre propre langue, quand on s'en sent l'envie ou qu'on s'y sent prêt, c'est possible, et c'est possible aussi très très vite de s'amuser avec ça.
Ça fait penser aussi à des jeux radiophoniques. Hein. On peut citer évidemment les Papous dans la tête sur France Culture, où il y a aussi cette idée de jeu à contrainte. Donc est-ce que ça aussi c'est quelque chose d'inspirant pour vous ?
Oui, complètement, spécifiquement pour Idiome. Moi en tout cas j'étais bercée par ces choses-là, et l'intérêt de partir de ces contraintes-là, c'est de créer aussi la complicité avec le public. C'est-à-dire que nous, on se met des fois dans des situations un peu inconfortables, mais on sait que c'est quand même cadré par la consigne du jeu. On sait que ben, si on se trompe, c'est pas grave, et voire même c'est assez jubilatoire pour le public de voir qu'on peut se tromper, que c'est pas grave, et que la structure, elle tient quand même, la structure du spectacle, même la structure du poème. Et puis on construit les choses comme ça petit à petit, et il y a vraiment des choses intéressantes qui se créent dans l'aller-retour aussi, dans notre propre langue, ce qu'on propose nous pendant le spectacle, et puis la manière dont les participants, le public réfléchissent entre eux, proposent des mots, proposent des proverbes, etc. Donc il y a vraiment cette circulation-là qui est intéressante.
Est-ce que c'est traduisible, cette architecture de spectacle. Est-ce qu'on pourrait le transporter dans une autre langue si vous parlez toutes les deux une autre langue? Ou est-ce que justement ça pourrait être drôle aussi de mélanger deux langues?
On y a pensé, ce serait la matière à au moins un autre spectacle. En tout cas, c'est compliqué pour les personnes qui sont pas francophones d'origine. C'est compliqué. En tout cas, c'est une petite barrière dans le sens où il faut connaître les expressions idiomatiques. Les gens qui ne les connaissent pas ou qui sont moins familiers avec perçoivent moins l'aspect ludique et humoristique de la déconstruction, en fait, de ces expressions-là. C'est certainement possible dans d'autres langues, puisque les idiomes, il y en a dans toutes les langues, des proverbes, il y en a dans toutes les langues. Voilà. Effectivement, c'est un sacré boulot aussi.
Peut-être que ça marcherait mieux alors avec une langue régionale.
Oui. Après, tout dépend si on veut aller plutôt chercher les jeux sur le sens, c'est-à-dire être vraiment dans la modification et la remise en cause des aspects sémantiques des proverbes, hein, c'est-à-dire souligner pourquoi on utilise des formulations qu'on n'utilise plus du tout dans la langue courante ou des mots qu'on n'utilise plus du tout dans la langue courante au niveau du vocabulaire. En général, les proverbes sont très très conservateurs. Ou alors, si le travail, on a plutôt envie de le centrer sur les aspects matériels des sonorités de la langue, et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait tout à fait créer des proverbes dans une langue inventée, même au-delà d'une autre langue, d'une langue régionale que certains maîtriseraient ou pas, on pourrait tout à fait faire ça, et puis se rendre compte que les mêmes exercices sont applicables, avec cette contrainte supplémentaire de n'avoir aucun accès au sens.
Peut-être que tu veux nous lire, justement, un texte du spectacle.
Oui, alors j'ai amené spécialement un poème écrit à partir d'une expression que j'aime beaucoup, que je ne vais pas dire au départ, pour laisser la surprise aux auditeurs. Il faut. Je dois, tu dois, nous devons. Il faut. Il faut avoir. Il fait avoir, il t'avoir fait, il faut qu'il pleut, il tonne, il dit que c'est la pluie qui il pleut sur. On est où? Il faut de tout. Il en faut, il en manque, il t'en faut, il te manque. Il a quelque chose en moins, moins que tout. Un monde, il faut le monde. Pour voir qu'il t'avoir, pour falloir, à l'envers, il faut tout un mode, il faut un tout dans ta tête de tout dans le monde. Bête, 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 il faut vraiment de tout, mais des bêtes à manger toute la paille de la grange. Pour tout un mode, c'est faux. On a dit que c'est amender ou émonder tout, attirant le mont, mont pour toi. En tout, c'est pareil, ton mombe, si combe c'est mourir, à tout attendre on croit, c'est dire, sans rire, la pire des vies dans ce transparence. Des gars se mettent à pourrir la conversation. Ombre de l'intelligence identifie l'espace commun du vie de pense et évite les trous, trier les trascas les plus nuisibles. Il faut. Ça s'impose, oui. Comme un ça, c'est dit.
Merci Axel. Donc ce texte, il intervient comment et à quel moment dans le spectacle?
Alors ce texte peut ou peut ne pas intervenir dans la première phase du spectacle, dans notre premier jeu collectif, qui s'appelle La Bonne Pioche.
Donc c'est le petit sac avec tous les différents éléments? Non.
Il y a un petit sac avec des numéros, puisque ce jeu est basé sur un système qui correspondrait à peu près à un jeu de loto. Voilà. Le public est réparti en équipes. Chaque équipe est munie d'une planche de loto sur laquelle il y a des numéros. Les numéros sont également dans le petit sac. Et les numéros déclenchent un certain nombre de choses.
Et la prochaine représentation d'idiome alors, puisque tu nous as léché quand même avec ce spectacle, quand est-ce qu'on pourra le voir et où?
Alors ce spectacle, on va pouvoir en voir une partie à Luynes le mercredi 30 mai à 17h à la médiathèque, puisque nous serons en résidence du lundi au mercredi, et donc on a l'opportunité de faire une sortie de résidence dans la médiathèque de Luynes. Voilà, donc on montrera une partie du travail ce qu'on aura approfondi, ce qu'on aura envie de montrer et de partager avec les gens et ce qu'on pourra faire dans un temps raisonnable, on va dire.
Et puisque tu nous disais que la musique est importante pour toi, tu as aussi un spectacle musical. Tu travailles sur un spectacle qui s'appelle Journée à rebours avec Quentin Polis. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ?
Oui, alors ce spectacle-là, il est plutôt axé sur un travail clairement plus expérimental au niveau du traitement des sons. Quentin travaille donc en musique électronique avec beaucoup d'effets. Et donc sur ce projet-là, on a essayé d'approfondir la question de l'intériorité et des déformations de la mémoire, à la fois sur le texte et aussi sur les perceptions qu'on peut avoir des bruits du quotidien et d'environnement sonore. Et le travail de Quentin, donc il y a un projet solo qui s'appelle le Cafarnarium, c'est de traiter la spatialisation sonore. Donc ça se prêtait complètement à ce que moi j'avais envie de faire avec le texte. On s'est bien retrouvé sur un univers commun. Et donc là, on est en travail également. On a des temps de travail prévus à l'automne, avec toujours des sorties de résidence pour faire partager notre travail au public. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut suivre un petit peu au cours du temps sur les médias divers et variés.
Et tu as aussi un projet solo, rien à voir avec Idiome et avec Journée à rebours.
Oui, alors ce projet-là tourne autour de la question des rituels. C'est un projet qui est toujours en réflexion, donc j'ai toujours de la matière qui s'ajoute, qui s'enlève, qui se modifie. Il a vu le jour il y a un petit moment maintenant et j'en propose une forme avec des objets sonores. C'est pareil, il devrait y avoir une présentation bientôt. Voilà, pas trop en dire plus pour le moment, mais en tout cas c'est un projet qui existe. Ça peut faire peur d'imaginer qu'on va entendre une quarantaine de minutes de poésie sonore comme ça, mais ça représente en fait jamais plus d'une dizaine de textes, voilà. Et puis dans la poésie sonore aussi, quand on traite le son, on traite aussi beaucoup du silence, et donc on n'est pas abreuvé d'informations comme ça pendant 40 minutes. La question c'est aussi de créer un environnement d'écoute qui soit singulier et privilégié. Donc surtout sur cette question des rituels, il y a aussi la question des répétitions, des cycles, des rythmes. Donc l'idée, c'est de rendre ça intéressant et confortable à l'écoute. Voilà. Donc aussi dans des cadres qui sont agréables, assez intimistes. Voilà.
Et ça, on peut trouver tous l'avancée de ces projets, on peut les trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur les pages de l'asso.
Oui, voilà. Donc pour trouver l'asso, c'est simple, ça s'appelle POSO, P-O-S-O, asso.
Est-ce que, avant de faire une seconde pause musicale, tu aimerais nous lire le manifeste de l'association POSO ?
Tout à fait. Nous affirmons que la littérature est partout dans la langue. La poésie est tant vers que rime, tant prose que fragment. La poésie est tant écrite qu'orale, tant composée qu'improvisée. Nous refusons les carcans logiciels. Nous tendons vers le jaillissement de la langue comme possibilité de faire trace. Les fonctions de l'oral et de l'écrit, combinées, atteignent le public et définissent un sens unique, lié à l'événement, singulier, dans les monstruosités potentielles des sens. La poésie est illumination, la poésie est lumière sur la langue. Toute langue est poétique, il suffit de lui apposer l'éclairage nécessaire. La poésie fait entendre des sonorités, familières et inattendues, à la manière d'une musique connue soudain entendue sous un angle nouveau. La poésie fait entendre des sonorités musicales, verbales, vivantes ou non, humaines ou hétéroclites. La poésie sonore travaille les sons, les images associées et les rythmes intérieurs, en déformation et reconstruction. La poésie sonore est un exercice nécessaire à la réalisation de l'être humain, instance productrice d'imaginaire.
Merci Axel Glay pour ce manifeste de l'association POSO. Et nous allons écouter Les Îles du groupe Tourangeau Steak. Sur Radio Campus Tours, Les Îles, et vous écoutez toujours Sortez. Nous parlons toujours de poésie sonore avec Axel Glay de l'association Pozo. Voilà, j'ai pas dit Pozo, j'ai bien dit Pozo. Alors Axel, cette association, c'est des spectacles, mais c'est aussi des ateliers d'écriture, donc à l'Exploratoire, à La Riche. Ces ateliers, tu en fais depuis le départ? Comment c'est venu dans ta pratique?
Alors en fait, les ateliers existaient avant l'association, dans des contextes ponctuels ou plus informels. Et puis, on a fait le constat que ça marchait bien et que ça apportait des choses aux gens, dans l'optique aussi de ce qu'on a voulu faire en créant l'association. C'est-à-dire d'amener toute personne intéressée, d'où qu'elle vienne, à jouer et se questionner sur son rapport à la langue et la construction de sa propre langue. Donc c'était aussi un début de premier de l'association de fournir un cadre et une structure à cette activité-là et de lui permettre de se pérenniser et d'exister de manière régulière, etc. Et l'Exploratoire, donc c'est un lieu associatif également, un petit lieu très sympathique et chaleureux qui nous accueille depuis le début maintenant et dans lequel on propose un atelier de 2 heures par mois, un mardi par mois, sans thème prédéfini, c'est-à-dire qu'on construit la matière ensemble et les ateliers sont répartis en courtes périodes d'écriture sur des propositions originales, on va dire. Et puis les temps d'écriture se rallongent un petit peu si les participants sont à l'aise ou ont envie d'aller un peu plus loin. On a des temps d'écoute qui sont importants puisque l'intérêt des ateliers, c'est d'être dans une écriture collective et de ressentir de manière très forte les influences des langues entre elles, en fait. Et puis, on a aussi des exercices d'écriture proprement collective, c'est-à-dire que à la fin d'un exercice, on a une chose produite qui a été écrite à plusieurs mains. Voilà, donc ça, c'est à la fréquence d'un atelier par mois depuis fin 2016 maintenant.
Et toi, comment ça influe ou pas d'ailleurs sur ta pratique, sur ton écriture personnelle, cette idée de mettre des gens en mouvement ensemble en fait, comment ça s'intègre dans ton propre travail?
Alors il y a toujours cet aspect très intéressant où ça relance la machine parfois, ça apporte de l'énergie, ça apporte aussi un éclairage nouveau. Le fait de lire devant des gens de manière régulière, comme ça, sans enjeu, sur des temps spécifiques, c'est vraiment très intéressant parce que ça, déjà, ça dédramatise le geste de l'écriture, ça dédramatise cette question de qu'est-ce que ça veut dire et comment ce que j'avais envie de dire est passé ou pas. Ça rend les choses très bienveillantes aussi, puisque c'est un cadre très contenant et très rassurant pour tout le monde. Et puis, c'est l'occasion de s'amuser aussi. C'est l'occasion de voir ce qui est accessible ou compréhensible comme geste d'écriture, comme exercice, comme consigne, etc. Donc ça donne aussi une idée de comment ce qu'on peut proposer des fois tout seul dans son coin s'est reçu à l'extérieur et dans quelle mesure ce qui me paraît très compliqué à moi en fait est reçu de manière très simple et évidente par les gens. Et à l'inverse, des choses qui moi me paraissent très simples comme contraintes d'écriture peut être en fait très compliqué, voire inquiétant pour les participants. Voilà, donc c'est un petit échantillon, mais voilà, je parlais du rapport au sens tout à l'heure. Il y a des choses qui sont vraiment beaucoup moins évidentes que d'autres dans la construction d'un poème, où on met de côté complètement le sens pour avoir des consignes vraiment très formelles, ou à l'inverse, d'inclure un petit peu le sens ou beaucoup le sens et d'avoir peu d'autres contraintes. C'est pas si facile non plus, en fait.
Et qui sont les personnes qui viennent dans tes ateliers? Est-ce que c'est un groupe d'habitués ou est-ce que c'est des nouvelles personnes à chaque fois? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une facilité avec l'écriture ou alors des gens qui sont plus curieux?
Alors je dirais les deux. C'est-à-dire que depuis un an et demi, il y a un roulement d'habitués, de réguliers qui viennent, qui sont intéressés par ailleurs par l'écriture ou par le travail poétique. Et puis il y a régulièrement des nouveaux arrivants, des nouveaux participants qui viennent une fois, qui repartent, qui reviennent. Voilà. Comme les ateliers sont ouverts à tout le monde, il y a cette possibilité-là de venir régulièrement ou pas, ponctuellement. C'est assez libre.
Comment on croise des personnes qui ne se connaissent pas, sauf peut-être des habitués qui viendraient en groupe d'amis ou en amoureux, qui sait, et du coup des personnes qui ne sont pas familières en fait de l'écriture, peut-être des gens qui sont moins à l'aise avec l'écrit, qui ont envie d'essayer, mais qui n'ont pas cette facilité-là, en fait, qui peut-être pourraient justement s'effrayer du fait que la langue écrite, c'est à la base pas leur truc.
C'est là que avoir la spécificité de la poésie sonore, c'est intéressant, puisque la poésie sonore a cette possibilité de se décentrer de l'écrit en tant que tel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de propositions d'écriture, d'activités d'écriture qui commencent par un échauffement à l'oral ou alors voilà, des tours de recherche et de discussion d'abord à l'oral. De toute façon, dans ce qu'on lit, il n'y a pas de regard sur la norme, sur l'orthographe, sur quoi que ce soit. Il n'y a pas d'obligation d'écrire beaucoup, il n'y a pas d'obligation d'écrire en bon français et voilà. Et donc c'est arrivé que ce soit des personnes qui n'aient pas du tout de pratique d'écriture par ailleurs dans leur métier ou dans voilà, qui soient celles qui se lâchent le plus et le plus vite. C'est presque plus évident quand on n'a pas un rapport normé et attendu de l'écrit.
C'est une écriture anti-académique, alors la poésie sonore?
Dès qu'on est dans l'expérimental, forcément l'académisme est un petit peu relégué au second plan.
Mais est-ce que ça peut pas aussi devenir, parce que c'est très en vogue quand même la poésie sonore, on en voit de plus en plus. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait aboutir à des canons de la poésie sonore, malheureusement?
Oui, complètement, ça arrive. Hein. Je citerai pas de nom, mais on peut en avoir l'exemple. Il y a des gens qui proposent un travail en le définissant comme un travail sonore qui finalement est plus très expérimental, et puis il y a des gens qui se revendiquent pas du tout de la poésie sonore, qui font des choses très intéressantes et dans lesquelles la musicalité a une place très importante et qui vient enrichir le texte.
Est-ce que, à propos de texte, est-ce que tu veux nous en lire un petit dernier avant de faire une pause musicale pour laisser le temps à Julie de nous rejoindre?
La roche. Tu entends juste dans ce silence juteux, cherche à entendre, tu attends, user la mouette, tu chantes un filet, tu bats le silence. User, tu entends la roche dans le gris bleu, le silence, le ressac, tu juste, tu as, tu sombre dans, tu timbres de gris bleu dans ce. Dans cette usure, la vague, la voix, la falaise, l'effritement. Qui chante? Gris roche, bleu roche, juste silencieuse, la usée, la dent. creuse la pierre, le roc dans ce gris bleu, la mouette marine, la manque de voix, le silence usurpé. Ajuste, toi, d'une voix osée le juste filet. Juste, entendre la roche usée dans ce silence qui bat un filet de voix gris bleu. Qui chante la mouette ?
Merci Axel Glay, c'est un de tes textes que tu as lu là, un texte hors spectacle, hors...
Oui, c'est mon carnet de poèmes tout seul.
Eh bien, nous allons écouter Oliba International, Marche Lune. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave. International sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours Sortez et nous avons été rejointes peut-être par Julie.
Bonsoir.
Bonsoir à toi et c'est l'heure de l'agenda culturel. Je lance le jingle de ce clic.
Jusqu'au 13 mai, la Foire de Tours s'installe au Parc des Expos avec plus de 700 exposants. Cette année, la Foire de Tours met à l'honneur le Maroc et au programme Expo, démonstrations, concerts et spectacles, le tout aux couleurs du Maroc. Dans le cadre du Charivari Jazz Festival organisé par Figure Libre, Onyx Ashanti, artiste de beat jazz, et Pierre Lambla, saxophoniste et improvisateur, se produiront sur scène au HQ, impasse du Palais à Tours. C'est ce soir à 19h et c'est gratuit. Cinémathèque ce soir à 19h30 au Cinéma Studio avec une soirée consacrée à André Tarkovski, réalisateur, scénariste et acteur russe qui compte 13 films et séries tournées et 8 récompenses, tarif de 5 à 7 euros. Mardi 8 mai à 19h15, entraînement bootcamp avec Free Fit Concept. Au programme course à pied, pompe abdos, squat et utilisation des reliefs naturels, c'est mardi à 19h15 et le rendez-vous est donné au lac de la Bergeonnerie. Brunch du 8 mai, mardi, de 11h à 14h à l'atelier de Camp Julie Pâtisse, au cœur du jardin des Prébandes. Le tarif est de 17,50€ par adulte et 10€ par enfant. Images sans parole, c'est l'exposition des photographies de Gérard Lebègue. C'est à découvrir à la galerie Vessière Sigma, 25 rue Colbert, jusqu'au 19 mai. Et ce mardi, ce sera ouvert de 10h30 à 19h. Mercredi, le théâtre du sous-sol, dirigé par Cindy Dahl, vous invite à découvrir leur nouvelle création, Créature, ou le spectacle idéal. C'est ce mercredi à 19h au Petit Faucheux, tarif unique de 6€. Au Citizen Bar, soirée hip-hop et premier concert du crew Phantom Lord, accompagné de trois invités, Chilin, Daobé et Miaouss. Le rendez-vous est donné ce mercredi à 20h au Citizen Bar et c'est gratuit. Et enfin pour terminer, pour les 7-14 ans à 15h mercredi au château du Clos-Lucé à Amboise, une visite costumée est organisée avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, et son fidèle serviteur Battista. Ils vous feront découvrir le quotidien du génie italien lors de son séjour à Amboise, tarif unique de 4€.
Eh bien merci Julie pour toutes ces infos sur les sorties à faire dans les jours à venir. Il est déjà l'heure de se quitter, donc nous remercions notre invité, Axel Glé, association Posso. Merci à toi.
Merci.
Et on va retrouver tout de suite la programmation documentaire de Radio Campus Tours, le Tour de France. Et ensuite, nous vous donnons rendez-vous avec Yann pour le Quota. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Tours.